Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les rebelles ADF font une fois de plus parler d'eux dans le territoire d'Irumo, dans le village Mutuei. Une vingtaine de personnes kidnappées, d'autres ont réussi à s'échapper. Voilà qui ouvre cette édition. L'actualité en ce dimanche est aussi judiciaire. Un policier accusé de viol sur mineur dans le Cuilou répond de son acte devant la barre depuis vendredi. En plus du viol, la victime a même perdu la vie, nous dit tout de suite Irène Mboma. Notre invité, qui est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, nous parle de la situation sécuritaire compliquée dans la partie est de la RDC. Jean-Baptiste Kasekwa fait des propositions également pour sécuriser cette zone. Fidèles auditeurs, Radio Okapi, toujours à votre service de l'information au quotidien. Merci de nous faire confiance. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. En Ituri, plusieurs personnes ont été prises en otage hier samedi par des présumés rebelles ADF à Mutuei. Nous sommes là en chefferie de Walese Vonkutu dans le groupement Banda Vilemba en territoire d'Irumu. Selon la société civile locale qui cite des rescapés, ces personnes, une vingtaine, se rendaient dans leur champ lorsqu'elles sont tombées dans une embuscade tendue par ces rebelles. Toujours selon des sources locales, ces derniers planifieraient une attaque contre les localités des Beoumanyama et Mutuei. Christophe Mounyanderou, un des activistes des droits humains, joint au téléphone par Martial Kizabiamungu depuis Bouanassoura dans la même région, donne plus de précisions.
La population s'est réveillée dans la matinée. On ne s'en veut pas que l'ennemi devrait. Donc, si l'ennemi serait dans la région, alors de ce matin-là, il y a plusieurs personnes qui ont été prises en otage par ces rebelles de l'ADF. Il y a au moins certains otages qui se sont échappés dans la main de ces rebelles. Et les informations en notre possession, selon les otages, disent que ces rebelles disent au moins ils sont en train de planifier une attaque contre les villages de Beoumanyama et voire aussi Mutuei. Et surtout, ce que nous sommes en train de craindre, parce que ce sont des entités qui sont isolées, où il n'y a pas nos éléments de la FRDC. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas un bilan à perte à vie humaine.
Nous sommes toujours dans la même zone en Ituri. La situation sécuritaire est volatile depuis hier à Libye, une localité qui se trouve à 5 à 4 kilomètres de Bounia dans le territoire du Djougou. C'est après les combats d'hier entre des miliciens du groupe armé Codeco URPDC et l'armée ayant causé la mort d'un lieutenant des FRDC. L'administrateur du territoire du Djougou appelle les usagers à ne pas fréquenter la route nationale numéro 27 avant la fin des opérations. La société civile locale craint que la reprise des combats empiète sur le processus de paix en cours dans la région. Une fois de plus, Martial Kizabiamungu.
Ces matins, quelques tirs sporadiques d'armes à feu étaient toujours entendus vers Dera, en dépassant Libye et ses environs. L'armée précise qu'il s'agit des opérations de ratissage qui se poursuivent dans la région. L'objectif est de pourchasser les éléments de la Codeco IRDPC accusés par l'armée d'avoir érigé illégalement une barrière au pont Bi sur la route nationale numéro 27. Suite à cette situation qui reste volatile dans la zone, l'administrateur du territoire de Djougou appelle les transporteurs à ne pas fréquenter cette route avant la fin des opérations. Conséquence, on dénombre une centaine de véhicules bloqués à Fataki et à Nyoka, un territoire voisin de Mahagi. La société civile du territoire de Djougou s'est dit inquiète de la reprise de combats entre l'armée et les miliciens de la Codeco URDPC. Son président Gilles Tsouba appelle le gouvernement à accélérer avec les processus de démobilisation de cette milice qui constitue, selon lui, une source permanente pour la population. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous sommes à présent au Cuilou, où le tribunal militaire de garnison de Kikwit, siégeant en matière répressive au premier degré, a débuté vendredi un procès contre le policier Badi Bangangandou, présumé auteur du viol sur mineur de 17 ans. Selon le juge président de ce tribunal, le capitaine Bienvenu Moinan Sélé, la victime de cet acte de viol avait rendu l'âme dans les circonstances de cet acte. Irène Mboma nous en dit plus.
C'est le vendredi 12 mars 2021 qu'a débuté le procès contre le commissaire Obadi Bangangandou Pierrot, policier de son état âgé de 51 ans. Procès organisé par le tribunal militaire de garnison de Kikwit, dirigé par le capitaine Bienvenu Mwanansele, juge président. Le prévenu Badji Banga est poursuivi par le ministère public pour l'infraction de viol perpétré sur une fille mineure âgée de 17 ans. Lesquels viols auraient entraîné la mort de la victime en plein acte, a-t-on appris du capitaine Mwanansele. Les faits se sont déroulés au mois de novembre dernier à l'hôtel Boncoin situé au quartier Kilokoko dans la commune d'Enzinda à Kikwit. Le dossier a été renvoyé au mercredi prochain sur demande de la partie civile, a dit le juge président de ce tribunal.
Il y a un commissaire de la police, il avait violé une fille de 17 ans et la fille est rendue l'âme. Donc l'audience aura lieu encore ce mercredi. La partie civile, ils étaient juste qu'on se constituait le même jour. Donc, juste là, ce sont eux qui ont demandé la remise pour qu'on puisse faire le dossier.
Notez que le tribunal militaire de garnison de Kikwit a siégé en matière répressive au premier degré à l'esplanade de la mairie de Kikwit pour se pencher sur ce dossier en présence de plusieurs personnes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'actualité nous amène en Bougimaye où on parle d'une tentative d'enlèvement d'une fille de l'EDAP au Kassai oriental. Des cas d'enlèvement des personnes se sont encore fait entendre ces derniers temps. Une élève de l'école d'application Moulemba a échappé de justesse jeudi dernier à une tentative d'enlèvement. Les faits se sont produits dans l'enceinte de son école lorsque cet élève est sorti de la salle de classe et se dirigeait vers les toilettes pour se soulager. D'après la victime, un homme non autrement identifié l'a surprise avec un couteau et a tenté de l'amener à un lieu inconnu mais sans succès. Dans cette altercation, l'élève s'en est sorti avec des blessures au bras. Dans son bourreau a escaladé le mur de l'école et a pris la poudre d'escampette. Joël Kabena Mwamba, élève de la 5e année littéraire, est au micro des journalistes de la radio-télévision Buenamontu du diocèse de Mbujimaye.
C'était vers 12h30, je suis partie à la traîne pour me soulager. En sortant, j'ai vu un jeune garçon qui était bien habillé. Bah, il avait porté des masques, il sautait les murs en entrant dans la cour scolaire. Et d'un coup, il m'a saisi, il m'a tenu au nez et à la bouche. Il m'a bloqué la respiration, il a bloqué aussi la bouche pour que je ne puisse pas crier. Il a sorti un couteau, il avait déjà un couteau, il a pris le couteau. Il voulait me poignarder dans le ventre. Et puis quand j'ai essayé un peu de bouger, le couteau m'a blessé à l'avant-bras. J'ai une blessure là. Et puis après, il voulait encore répliquer. Lui-même m'a laissé et puis a sauté. Il est monté au mur. Il m'a dit que si j'allais crier, il allait lancer le couteau. Il avait tenu le couteau, il voulait lancer. Je ne sais pas, mais les élèves qui étaient en face disent qu'ils n'avaient pas vu les garçons.
À Kananga, l'association des femmes Bindi de Kazumba a organisé hier samedi une matinée dans le cadre du mois de mars dédié à la femme. Plus de 500 femmes de cette communauté ont bénéficié de plusieurs exposés dont celui de la chef de division provinciale de la santé axée sur le cancer du col de l'utérus. Plus de détails avec Blaise Ndongala.
Cette activité a été ponctuée de pas de danse traditionnelle Bindi. Ces femmes ont récité des scénettes pour fustiger les pratiques rétrogrades que subissent leurs semblables à travers la province. Elles ont également plaidé pour la mise en œuvre de la parité tout en invitant les autorités provinciales à combattre toute forme de violence basée sur les genres. Dans son exposé des circonstances, la chef de division provinciale de la santé leur a recommandé des mesures préventives du cancer du col de l'utérus. Docteur Eugénie Missinga.
Pour se prévenir du cancer de l'utérus, il faut éviter tout ce que nous avons cité comme un facteur de risque. Les infections sexuellement transmissibles, parce qu'aujourd'hui, il est bien défini clairement que le cancer du col a des causes infectieuses, entre autres l'infection par les virus papillomateux et même l'utilisation de certaines substances corrosives sur le col peuvent amener au développement d'un cancer à l'âge adulte et aussi le rapport sexuel précoce.
À son tour, la chef du bureau à la division provinciale du genre est revenue sur l'historique de la journée du 8 mars. Et quelques hommes ont par ailleurs appuyé ces femmes tout au long de cette matinée qui s'est clôturée par les partages des repas d'amitié des Kananga, Blaise, Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
L'actualité en ce week-end, c'est ce rapport, c'est ce lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 prévue initialement lundi à l'Université de Kinshasa qui n'aura plus lieu. Cette campagne de vaccination est reportée à une date ultérieure en RDC. Le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a affirmé dans un communiqué ce week-end que par précaution, la RDC reporte le lancement de la campagne de vaccination comme l'ont fait quelques pays de l'Union européenne sur la base des rapports notifiant des troubles de la coagulation sanguine des personnes déjà vaccinées. D'autres précisions avec vous, Richard Junior Kamunga.
Dans un communiqué publié ce samedi à Kinshasa, le ministre de la Santé publique précise qu'à ce stade, ces troubles ne sont pas formellement prouvés et qu'une investigation est menée par des experts. Dr. Eteni Longkondo indique que la date du début de cette campagne sera communiquée dès que les résultats des investigations au niveau national et international seront disponibles. Ceci ressort de la réunion tenue par les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique des ripostes contre la COVID-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination. La vaccination est un pilier important de la riposte contre le coronavirus. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique rassure que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, dont ceux du continent africain, où les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté des cas de troubles de la coagulation sanguine.
Nous sommes présentement à Matadi où la Banque mondiale vient de financer le projet d'équité et du renforcement du système éducatif à hauteur de 800 millions de dollars américains, dont 700 seront décaissés sous forme d'appui budgétaire direct en faveur du trésor public. Le reste va financer des activités du renforcement du système éducatif destiné à asseoir durablement la gratuité de l'enseignement primaire de qualité et accessible pour tous les enfants de la RDC. Une délégation conduite par le professeur Valère Monsi-Amolombe, coordonnateur de ce projet, est à Matadi pour évaluer les conditions de la mise en œuvre de ce projet au Congo central. Suivez le professeur Valère Monsi-Amolombe au micro de Nana Plurish Mambo.
Grâce à ce projet, 58 000 anciennes nouvelles unités ont été payées. Donc il y a comme ça toute une série d'activités de renforcement du système qui seront réalisées pour appuyer justement la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, ce projet ne prend pas en charge ces questions de mise en retraite. Ce sont des gens qui sont fatigués, ce sont des personnes qui ont rendu d'énormes services à l'État. Il faut qu'ils se reposent, mais on ne va pas les envoyer au repos n'importe comment. Il faut les envoyer au repos dignement. Et donc c'est un problème réel qui risque de plomber effectivement les efforts que nous faisons notamment à travers ce projet pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement. Il faut recruter, mais pour recruter, nous sommes en train d'aider le gouvernement à pouvoir mettre en place un système de recrutement qui garantisse la transparence, qui garantisse la concurrence, qui garantisse le mérite. On ne va plus recruter n'importe comment et à n'importe quelles conditions des enseignants, parce que l'enseignant constitue une des pièces centrales dans les dispositifs à mettre en place pour améliorer la qualité des apprentissages et la qualité des enseignements.
Retour au Kasaï oriental où il y a eu publication hier samedi dans la soirée de plusieurs arrêtés provinciaux signés par le gouverneur de province. À travers ces arrêtés, l'autorité provinciale a désigné de nouveaux animateurs à la tête de la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, DGCOR en sigle. Des réaménagements sont aussi opérés au sein de son cabinet politique. Des explications avec Esther Ndalafina.
À la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, DGRKOR en sigle, Jean-Maoué Jamouteba a nommé François Kazadine, chef des travaux à l'Université officielle de Mbujimayi, IOM en sigle, comme étant directeur de cette régie financière de la province. Il sera secondé par deux collaborateurs. Corneille Tita va s'occuper des recettes fiscales, tandis que Léonard Mukengi va se focaliser sur les recettes non fiscales. Le gouverneur de province a aussi opéré des réaménagements au sein de son cabinet politique. Un nouveau directeur de cabinet, en la personne de John Mulumba, vient d'être nommé. Il remplace à ce poste Elvis Kadiaï, devenu conseiller économique. Dans le même arrêté, le gouverneur de province nomme Dominique Lutumba comme conseiller juridique, politique et administratif, poste qu'occupait Jean-Louis Kasonga, actuel ministre provincial en charge de l'économie et des mines. Marcel Mwangi est pour sa part nommé conseiller financier et Dodé Ngandou garde son poste d'assistant du conseiller financier, poste qu'il occupe depuis l'ancien gouvernement provincial dirigé par Alphonse Ngoï Kassangé. D'autres nominations concernent les collaborateurs des ministres provinciaux désignés récemment par le gouverneur de province. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle d'actualité, Kalev Mutondo, ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement, recherché par la justice congolaise. Un avis de recherche dans ce sens a été lancé depuis samedi 13 mars par le procureur général près la cour d'appel de la Gombe. Une action qui est initiée après que le numéro 1 de l'ANR a refusé de répondre à deux invitations de la justice. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Cet avis de recherche adressé à la police nationale congolaise, à l'agence nationale de renseignement ANR et à la direction générale de migration DGM, daté du 11 mars dernier, porte la signature de Bonheur Luntaka Madi, procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. D'après ce document, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, Kalef Mutondo est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation d'infractions, d'arrestations arbitraires, de détentions illégales avec torture et d'extorsion. Ayant sollicité et obtenu le changement du magistrat instructeur des dossiers les concernant, Kalef Mutondo pensait pouvoir obtenir également changement des procédures, ce qui tarde malheureusement à venir. Rappelons que jeudi dernier, Kalef avait alerté la rédaction de Radio Okapi, affirmant que sa maison était encerclée par des policiers lourdement armés, d'après ses propres termes, ce qui n'a pas été constaté par les reporters de Radio Okapi dépêchés sur les lieux aux environs de 7h du matin. Entre-temps, Kalef Mutondo, qui vraisemblablement n'adhère pas à la procédure telle qu'enclenché à son endroit, avait fait savoir lors d'une interview à Radio Capi, je le cite, « La loi dit que l'agent de l'ANR a droit à une protection spéciale ». Fin de citation.
Actualité internationale.
Les forces de sécurité nigériennes ont intensifié leurs efforts pour secourir des dizaines d'étudiants enlevés samedi, alors que les médias ont diffusé des vidéos montrant des otages implorant de l'aide. Le porte-parole de la police de l'État, Mohamedou Djalingué, a déclaré qu'une équipe composée de la police, de l'armée et d'autres forces de sécurité était à la recherche frénétique des étudiants kidnappés. Jeudi, des hommes armés ont enlevé 39 étudiants dans leur foyer dans l'État de Kaduna. Nous sommes dans le nord-ouest du Nigeria.
L'invité.
Notre invité, le député national élu de la province du Nord Kivu et membre de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Kasekwa, s'exprime sur la situation sécuritaire à l'est du pays, mais surtout de la responsabilité du gouvernement dans le rétablissement de la paix dans cette partie de la République. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Baptiste Kasekwa, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes membre de la Commission nationale de défense et sécurité et vous vous retrouvez dans la région de Beni. On peut du moins avoir une idée sur l'objectif de votre mission.
Je suis membre de la Commission défense et sécurité. La sécurité se détériore davantage. Il y a un nouveau programme de gouvernement qui sera examiné d'ici le 15 mars à la session parlementaire de mars. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de fouler mes pieds à Beni pour écouter la population, écouter les autorités locales, écouter les autorités de l'armée pour savoir sous quel regard nous devons examiner ce budget-là afin de nous rassurer que les préoccupations sécuritaires de Beni sont effectivement prises en compte. C'est la principale raison de ma présence ici après que j'ai été à territoire de Rutshuru, déclaré aussi zone rouge. J'ai estimé donc qu'il fallait que je vienne à Beni, principalement pour écouter, afin de pouvoir apporter ma modeste contribution lors de l'examen du programme de gouvernement qui est attendu.
Monsieur Jean-Baptiste Kasekwa, les atrocités de groupes armés s'étendent et s'intensifient dans la région de l'Est, à Beni et même en Ituri. Que pensent les élus et que pense le gouvernement?
C'est l'une des préoccupations que nous devrions poser au Premier ministre qui est entré en fonction. Quelle est sa politique de partenariat militaire? Doit-on continuer sous la même logique, sous le même format avec la MONUSCO? Faut-il que d'autres partenaires, et sous quelle modalité d'autres partenaires bilatéraux devraient-ils intervenir? Mais prioritairement, quel est le niveau de contribution budgétaire à vue de la mise en œuvre de la réforme de l'armée? Parce que le socle de notre défense, c'est d'abord les FARDC et nos services de renseignement. Mais il se fait que la part allouée à notre sécurité dans le budget est souvent négligeable. C'est le regard que nous devons apporter pour savoir si le nouveau Premier ministre avec son gouvernement veut réellement répondre aux attentes. Nous devons nous rassurer, au-delà de la part réservée dans ce budget de 4 milliards 300, il est maigre. Est-ce qu'il est possible maintenant d'accorder une priorité de sorte qu'il y ait des moyens financiers extra-budgétaires parce que les FARDC n'ont jamais refusé de disposer d'un drone. Pourquoi devons-nous dépendre des drones, des hélicoptères de la MONUSCO? Pourquoi les FARDC peuvent être incapables d'être dotés de jeeps à nombre imposant? Et au contraire, vous allez retrouver que c'est dans les parcs automobiles des ministres où vous retrouvez 20-30 jeeps d'un prix très élevé. Donc, nous devons examiner le programme du gouvernement sans complaisance et c'est à cela que nous sommes en train de travailler à une mobilisation de tous les élus de l'Est de la RDC, Ituri, Sud-Kivu, Tanganyika, pour qu'effectivement les combats nous puissions le mener au niveau institutionnel. Et si nous adoptons, nous parvenons à obtenir ces réformes au niveau institutionnel, je pense que même au niveau de nos entités, de nos villes, la tension, les manifestations peuvent baisser si, effectivement, au niveau du Parlement, nous aurons obtenu des résultats à partir du gouvernement.
Tantôt, vous venez de dire que le budget est peu considérable que le gouvernement a doté à l'armée. Pensez-vous que ce budget impacte négativement les efforts de l'armée sur terrain?
Absolument. Comptez le nombre de jeeps dont disposent les commandants des opérations dans différents secteurs. Quelle est la part allouée à la ration militaire? Et donc, bien que ce budget soit maigre, nous devons lutter pour qu'une part importante soit affectée à la sécurité. Donc, notre lutte doit consister aujourd'hui à ce que la réorientation des affectations de ce budget soit faite au profit de l'intérêt du peuple. Il y a un slogan, le peuple d'abord. Cela ne doit pas rester un slogan, ça doit se traduire par des affectations budgétaires au profit de la sécurité, au profit de la réhabilitation des routes. Et c'est les combats que nous devons mener tous ensemble au cours de ce mois de mars.
Monsieur Jean-Baptiste Kasekwa, je rappelle que vous êtes aussi membre de la commission de défense et sécurité. Nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette édition de la mi-journée sur Radio Okapi. Mesdames et messieurs, nous vous disons une fois de plus merci d'avoir été des nôtres et aussi de la confiance que vous nous cessez d'accorder.